Et donc, c'est pour ça qu'on doit être dans des lieux séparés pour créer ces pôles qui, au moment où on fait nos activités en parallèle, il y a des moments aussi auxquels j'ai eu la chance d'assister, où évidemment les hommes et les femmes se retrouvent aussi pour des rituels, et bon, avec des mises en scène assez complexes. Alors, qu'est-ce que ça fabrique, ça? Ça fabrique ce que j'ai moi appelé des hyper-femmes et des hyper-hommes. Alors bon, on parle, nous, dans nos mythologies occidentales, de super-hommes, super-femmes, au sens où des pouvoirs, voilà, Catwoman, Superman, etc. Là, c'est la capacité, en fait, de pouvoir transformer des choses dans la société. C'est-à-dire, ce qui s'exprime en Walpiri par les expressions Kanunchu et Kankarlu. Kanunchu, ça veut dire « en dessous », que moi j'ai traduit par « virtuel », et Kankarlu, ça veut dire « au-dessus », que j'ai traduit par « actuel ». Pour eux, ils utilisent aussi Kanunchu, Kankarlu pour dire « secret public ». Et donc, les hommes et les femmes ont un rôle différent vis-à-vis de la transformation de l'actuel en virtuel et du virtuel en actuel pour aller vite. Mais les rituels se résument à ça, mais de manière différente. Alors, voilà, une dernière chose que je voudrais dire qui est très importante avant de passer à des images, force, c'est la notion de totem. Donc, le totémisme, le mot totem, il vient d'une langue algonquine des Amérindiens des plaines, et donc qui correspondait chez eux à une manière particulière de définir un lien spirituel avec des animaux. Comme dans le monde entier, des observateurs, qu'ils soient missionnaires, voyageurs, et puis ensuite des ethnologues de terrain, etc., se sont aperçus qu'il y avait ces liens étranges avec des animaux particulièrement, mais aussi en Australie, avec des plantes et le reste, comme j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, ils ont en fait, les anthropologues de l'époque, je dis « ils » parce que c'est surtout des hommes qui ont fait ça, ils ont choisi ce mot « totem » pour essayer de couvrir de manière universelle ce phénomène qu'ils n'arrivaient pas à identifier à des choses en fait, que nous avons perdues en Europe. Parce que si on regarde, ça c'est pour revenir à ce qu'il dit tout à l'heure, moi je suis complètement située, je veux dire je suis née en Pologne, je m'intéresse énormément à tout ce qui est le paganisme pré-chrétien, aux résistances du paganisme à travers la christianisation, y compris dans le culte des saints, des sources qui existent partout en France et même en ville où les gens vont encore faire des soins sans forcément se référer à des saints qui ont été plaqués dessus ou des églises qui ont été construites dessus. Donc ça me passionne ça et je pense que si j'ai été touchée par ce que je voyais en Australie, c'est que j'avais l'impression, au-delà de la reconnaissance de l'altérité et de la singularité, que ça nous renvoyait à des choses qu'on a, par exemple, en France, avec des contes qui ont été transformés parce qu'ils ont été écrits, ou par exemple comme Gargantua. Gargantua, encore aujourd'hui, en Occitanie, en fait, il y a plein de lieux qui sont liés à Gargantua, et quand il nous reste l'histoire qui portait une hotte avec des choses qui tombaient, c'est vraiment le même modèle que les récits aborigènes qui racontent les héros hybrides. Gargantua était un géant qui faisait des pattes géantes, donc qui était un hyper-homme, pas tout à fait homme, et donc qui faisait tomber des choses, qui faisait naître des sources, des collines, etc. Donc, et ça, on le retrouve à travers toute l'Europe. Donc il y a quelque chose qu'on a perdu du rapport au lieu, on l'a perdu, mais c'est là. Et quand les aborigènes viennent en France, ils disent à ceux qui viennent leur demander « Alors, bon, comment ça se passe chez vous et tout ça, nous, on a perdu tout ça », ils leur disent « Mais non, vous ne l'avez pas perdu, cherchez-le en rêve. » Parce que chez nous aussi, beaucoup d'aborigènes qui ont été retirés de force à leurs parents parce qu'ils étaient notamment métis, qui sont en quête des endroits d'où ils viennent, et il y en a qui retrouvent des choses en rêve. On entend des chants en rêve. Donc voilà, ça c'est une invitation au rêve. Alors le totem, ce n'est pas un emblème, vous avez compris. Hein, même si encore aujourd'hui, il y a des politiques qui utilisent ce terme-là pour dire « ceci est un totem ». Hein, vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas un emblème. Hein. Ce n'est pas de l'ordre de la représentation. C'est un devenir, un processus et un affect. Il y a un autre préjugé aussi, très souvent en anthropologie, il y a des historiens qui ont dit l'amour a été inventé en Occident, et il n'y a pas très longtemps. L'amour? L'amour entre deux personnes a été inventé en Occident. Enfin, il y a des paquets de livres qui disent ça. Bon, eh ben, on sait quand même que dans beaucoup de groupes autochtones, il y a de la magie amoureuse. Il y a des histoires, mais extraordinaires, bon, qu'on appelle des mythes, mais de chagrin d'amour jusqu'au suicide ou jusqu'à la provocation de cataclysmes incroyables. Enfin, je veux dire, l'amour est présent partout, mais il n'est pas qu'humain. L'amour est entre espèces. L'amour se manifeste aussi par la pluie, par les vents, par les orages, la terre. Et c'est une relation d'amour que les gens expriment au regard de certains lieux. Et donc le fait d'être arraché à des endroits et de vouloir défendre des lieux contre l'extractivisme et d'autres destructions qui sont venues avec la colonisation et qui continuent à une vitesse effrénée. Depuis les histoires de virus, c'est même scandaleux à quel point les gouvernements à travers le monde, et particulièrement en Australie, s'autorisent à donner le feu vert contre des luttes qui étaient très fortes jusque-là, qui ont essayé, malgré le confinement, de se maintenir. Eh bien, l'amour vis-à-vis enfin, le langage très poétique, magnifique qu'utilisent les hommes et les femmes aborigènes pour parler de leur lien à ces lieux, c'est comme s'il parlait de personne. Donc, il y a tout un mouvement dans les droits de la nature pour reconnaître les fleuves comme des personnes, mais il faut regarder en amont. Ce n'est pas un truc que juridique. Bien sûr, les aborigènes, avec le temps, parce qu'ils ont pu faire changer des lois pour récupérer des terres, pas partout, ont changé, ne disent plus businesswoman, businessman, ils disent law woman, law man, parce qu'ils ont appelé law tout le système de ces pistes et des attachements à des lieux. Et quand je dis attachement à des lieux, c'est compliqué aussi la traduction, par exemple, de qu'est-ce que tout à l'heure on parlait de possession, de propriété. Je veux dire, on est vraiment à une époque là aujourd'hui, bon, on n'aura pas le temps d'en parler maintenant, mais où il faut réinventer les communs. Mais on ne peut pas juste copier ce qui a existé avant, historiquement chez nous ou bien chez d'autres groupes. Mais tous ces groupes qui ont perdu à cause de la colonisation la manière dont fonctionnait leur commun continuent à résister et réinventent des manières de le faire exister au sein des États où ils sont devenus minoritaires pour le coup. Mais ils sont à travers le monde, oui, aussi une minorité parce qu'ils représentent 6% de la population. Mais 6% de la population, c'est énorme quand on y pense. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on opposerait 6% de peuples autochtones au reste de la population comme si elle était uniforme? 6%, c'est une force inouïe qui est transnationale, transindividuelle, transcollective, transplanétaire, enfin ce qu'on veut, c'est inouï. Donc, par exemple, prenons la Polynésie française, ça nous concerne directement puisqu'on est français. Jusqu'au confinement, il y avait le respect par l'État de l'indivision foncière, qui était extrêmement importante pour les familles. Hein, bon, c'est des choses, enfin, toutes les sociétés traditionnelles ont eu des modes d'indivision différents, mais là, restons en Polynésie. Et donc, ils tenaient beaucoup à garder l'indivision foncière parce que ça les protège du développement économique, ça les protège de la destruction des terres, ça maintient une cohérence familiale, de solidarité, etc. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant le confinement? Ils ont imposé, sous prétexte que juste avant le confinement, ils avaient enfin accepté de financer une partie de la réparation de tous les dégâts des essais nucléaires avant, dans le même décret, ils ont, au moment du confinement, enlevé des choses qui avaient été décidées juste avant le confinement et ils ont rajouté la suppression de l'indivision foncière. Voilà, c'est pas de ça qu'on parle dans les médias. C'est gravissime parce que, en fait, tout comme en Guyane, on a voulu aussi légiférer pour favoriser les mines. Pareil, pendant le confinement, mais déjà avant, parce qu'en fait, les Guyanais, ils s'étaient déjà révoltés avec toutes leurs composantes inouïes, hétérogènes, en 2017, et ils avaient eu les accords de Guyane en 2017 qui leur permettaient de changer les lois par rapport à ce qui n'est pas reconnu vis-à-vis de la terre en Australie, donc excusez-moi, en France, et donc mettre en avant des formes collectives d'usage des terres et de restitution des terres qui n'étaient plus accessibles. Voilà, donc pendant le confinement, le gouvernement a bossé. Il ne répond pas à nos urgences générales de tous les habitants et habitantes de France, mais sur ces choses-là, ils n'ont pas chômé. Alors ça ne veut pas dire que c'est fait pour toujours.